Nous avons dans notre vie de chrétien des tentations. Nous avons un certain nombre de problèmes. Nous avons des épreuves. Et la vie n'est pas facile. La vie, c'est normal. C'était conçu ainsi. Mais comme si tout ça ne suffisait pas, nous avons en plus un adversaire à combattre, contre lequel nous devons lutter, qui nous envoie des flèches, comme la Bible dit, des flèches enflammées, qui a des desseins sur nous, qui veut que nous tombions, qui nous hait. Il est redoutable et nous devons être alertes aux attaques de Satan. Nous devons être sur le qui-vif et nous devons être prêts à combattre. Jamais laisser, c'est facile à dire, mais jamais laisser tomber nos gardes. Parce que Satan va chercher à nous déstabiliser. Satan va vouloir, Satan veut que nous allions en arrière et Satan veut que nous abandonnions la course. Donc il faut que nous soyons conscients de notre ennemi, conscients de ses méthodes et conscients que nous sommes dans une lutte qui va s'arrêter le jour de notre mort. Ça nous vient parfois à l'esprit de certaines idées, certaines pensées négatives. Nous pouvons être influencés par certaines personnes, nous pouvons être sollicités, des choses qui nous traversent l'esprit, on ne sait pas d'où ça vient, mais peut-être que si, on sait d'où ça vient. Il peut y avoir des raisonnements que nous avons, des raisonnements qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, parce qu'il faut décortiquer, il faut réfléchir, il faut savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors face à cette panoplie de difficultés, face à notre adversaire, nous avons bien sûr de notre côté Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et Dieu face aux attaques de Satan, parce que c'est bel et bien des attaques, Dieu nous donne une armure, toute l'armure nécessaire, Dieu nous donne une armure complète pour nous protéger. Et nous avons vraiment besoin de nous protéger comme une défense. Si on n'a pas l'armure de Dieu, nous sommes vulnérables. Et Satan, inévitablement, tôt ou tard, va prendre le dessus. J'y m'y rapporte pas, mais dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous lisons ceci. « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, et Satan peut nous attaquer, et si nous n'avons pas la défense adéquate, il va commencer à prendre le dessus. L'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le contexte, si vous regardez, je ne m'y rapporte pas, mais si vous regardez le contexte, ici, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, le contexte est un contexte de pardon. Rappelez, quand quelqu'un est écarté de l'Église et la personne revient, il fallait donc qu'il soit bien accepté par les membres de l'Église. C'est donc un contexte de pardon, puisqu'un chrétien doit avoir l'esprit prompt à pardonner et ne pas être aigri. Je vous ai parlé tout à l'heure d'influence. Dans Galates, c'est marqué cette influence, je cite un verset. Cette influence, puisqu'ils étaient séduits, ils ont commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, que ce n'était pas nécessaire de faire, qu'il ne fallait pas faire. Galates, je vous cite seulement le verset, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. » Nous pouvons donc avoir des influences qui nous traversent l'esprit et qui peuvent nous imprégner, mais qui ne sont pas de Dieu. Dans le même livre de Galates, c'est marqué « Qui vous a fasciné ?» Des idées qui nous fascinent. Des idées qui nous montent peut-être à la tête. Et c'est avec ces choses-là que Satan travaille. Donc il ne faut pas laisser à Satan percer nos défenses. Il ne faut pas laisser à Satan faire de réels progrès et avoir l'avantage sur nous. C'est donc une nécessité absolue. Et ça, je peux vous montrer, c'est la nécessité absolue pour nous de nous protéger contre les attaques de Satan. En quoi consistent les attaques de Satan? Ça peut être, les attaques peuvent être nombreuses. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de ne pas pardonner. De ne pas pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. Un frère dans l'église, ou même peut-être quelqu'un de l'extérieur. Parce que Satan est notre ennemi, il ne veut pas que nous ayons la vie éternelle, il va tout faire pour que nous n'ayons pas la vie éternelle. En quoi consistent les attaques de Satan? Ça peut être la séduction. La séduction, il faut une parade contre la séduction. On en parlera tout à l'heure. Satan est appelé dans la Bible un malin. Satan est appelé un destructeur. Parce que qu'est-ce que Satan veut faire? Qu'est-ce que Satan essaie de faire? Et parfois il réussit. C'est détruire. Détruire quoi? Entre autres, la relation entre les êtres humains. La relation entre frères dans l'église. Donc Satan veut détruire. Satan est appelé aussi le tentateur. Il va nous tenter. Des choses qu'on a envie de faire, humainement parlant, mais qui ne conviennent pas de faire, qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu. Et Satan est appelé aussi le père du mensonge. C'est pour ça que quand on commence à ne pas dire la vérité, on va sur un terrain qui est très dangereux. C'est le modus operandi de Satan, ou je devrais dire le maudit operandi de Satan, puisqu'il a plusieurs façons, c'est sa manière d'opérer. Et donc, on a besoin, comme j'ai dit, de cette armure. On a besoin de plusieurs aspects. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'armure de Dieu, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Je vais vous parler d'un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas vous détailler, ce sera peut-être le travail de deux ou trois sermons, mais j'ai pris trois. Et on va commencer donc Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, c'est le verset 10. Qui entre dans le contexte, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. La première chose qu'on remarque ici dans le verset 10, c'est que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il faut donc lui demander, il faut demander l'aide de Dieu pour que nous puissions faire face à Satan. Satan est infiniment plus puissant que nous, et sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas faire face. Sans l'aide de Dieu, Satan va prendre l'avantage sur nous. Dans le Darby, le verset 10 est traduit par ceci, dans le Darby, « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Il n'y a que Dieu qui peut nous préserver de Satan. On ne peut pas nous-mêmes. Il faut demander l'aide de Dieu. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut l'armure complète de Dieu, toutes les armes de Dieu. Et là, c'est marqué aussi les ruses du diable. Je me rappelle quelqu'un une fois, il parlait un petit peu de la situation dans l'église à ce moment-là, où il y a déjà eu des problèmes. Il dit, on était là sur les remparts, en train de regarder pour voir où l'ennemi allait venir, pour chercher par où l'ennemi allait venir. On était sur les remparts, mais Satan ne va pas opérer de cette façon-là. Satan va nous séduire, Satan est rusé. On ne va pas forcément le voir dans un premier temps venir en face. Nous, il faut faire en sorte que notre château à nous soit imprenable, mais Satan va faire où il peut faire. S'il y a des failles dans notre armure, Satan va en profiter. Satan veut nous faire perdre nos priorités. Et c'est ce qui arrive parfois quand il y a des événements qui arrivent et on a l'esprit sur autre chose. Et Satan veut nous faire perdre nos priorités. Verset 12. L'apôtre Paul donne la raison pour laquelle il faut se fortifier dans le Seigneur. La raison pour laquelle il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Le verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pourquoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une réalité spirituelle. À partir du moment où nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes chrétiens, un combat va s'engager. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, et c'est très clair ici de qui il s'agit, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si nous, nous voulons être dans le royaume, il faut lutter jusqu'au bout. Les esprits méchants, les démons qui vont entrer, qui vont mettre peut-être chez nous, qui vont essayer de nous influencer avec des idées, des pensées, des attitudes, des raisonnements qui ne sont pas bibliques, et même des supputations. Une évaluation qui est plus ou moins exacte, une supposition. Si vous regardez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Paul qui parlait ici à des gens de Corinthe, ils avaient changé beaucoup par rapport au premier épître. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il parle ici de séduction comme le serpent a séduit Ève. Le contexte était donc la séduction et la simplicité. Que vos pensées ne se corrompent pas. Ils étaient réceptifs à autre chose, à un autre évangile. Et nos idées que nous avons parfois, il faut peser nos idées. Il faut examiner nos idées et il faut être certain que nous avons été bien influencés, pas mal influencés. Les lieux célestes, le Martin traduit ça par « qui sont dans les airs ». Donc des démons, des esprits qui sont dans les airs et qui peuvent nous influencer. Verset 13. Toujours Éphésiens chapitre 6. Ah oui, c'est vrai que je ne dis pas toujours. Éphésiens chapitre 6. Je vais rester à Éphésiens chapitre 6. On va décortiquer ça un peu. Éphésiens chapitre 6, donc verset 13. Vous voulez peut-être garder votre place dans Éphésiens 6, si vous avez un marqueur. C'est pourquoi, puisque nous sommes en lutte contre notre ennemi, il faut prendre les armes de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Toutes les armes de Dieu. Et ensuite, les quelques versets plus loin, vous avez cette armure de Dieu qui est détaillée, décortiquée. Vous vous rappelez l'histoire d'Achab. Achab, qui c'était Achab et Josaphat. Et Achab a demandé il a laissé à Josaphat remettre ses habits royaux quand il est allé pour se battre. Et lui, il s'est habillé d'une façon ordinaire. Achab, c'est marqué dans la Bible qu'il y avait une flèche qui a été tirée au hasard et que cette flèche l'a atteinte au défaut de la cuirasse. Il y avait une faille au défaut de la cuirasse. Il y avait une faille dans cette armure. Shorakib traduit ça par entre les jointures et la cuirasse. Donc le plastron, cuirasse qui couvre le thorax, c'était quelque chose de plus bas, mais c'était une faille. Une faille qui était, dans son cas à lui, mortelle. Il a perdu son sang, il est mort le soir. Donc il s'agit de ne pas avoir de faille dans notre armure. Et puis c'est marqué toujours dans le verset 13, Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, c'est quoi le mauvais jour? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quand les choses sont difficiles pour nous. Ça peut être la persécution. Ça peut être directement des attaques de Satan ou des démons. Ça peut être des afflictions, des tentations, des épreuves. Et des épreuves ou des tentations que Satan va essayer d'exploiter. Il va essayer d'exploiter des situations qu'il va essayer d'exploiter. C'est pour ça qu'il nous, il faut qu'on soit aux aguets, alerte, il faut que nous prenions les armes de Dieu. Il y a des époques, il y a des moments de grandes bénédictions, mais il y a aussi des moments de grandes épreuves. Et des moments qui sont difficiles pour un chrétien. Mais ce qu'il y a, c'est que Satan, de mon passant, Satan est disposé, Satan le fait, et il nous fait la guerre souvent, et à n'importe quel moment. Galates parle également de ce présent siècle mauvais. Je reviens au verset 13, donc, à la fin du verset 13, et tenir ferme, de prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir le faire, pour pouvoir résister, et fin de verset 13, et tenir ferme après avoir tout surmonté. De tenir ferme, de ne pas céder du terrain face à Satan. Si vous remarquez bien, dans le verset 11 et le verset 13, vous avez cette expression qui est employée deux fois. Le verset 11 et le verset 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, de pouvoir tenir ferme. Sinon, on ne peut pas tenir ferme. Et puis dans le verset 13, c'est marqué afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Il faut absolument être revêtu de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Sinon, nous sommes sans défense. Et de pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin. Je lis toujours le verset 13, je continue, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans le marge, tout au moins en anglais, après avoir tout surmonté. Dans le marge en anglais, dans ma Bible en anglais, c'est marqué « ayant tout vaincu ». Je vous traduis. « Ayant tout vaincu ». Et quand on voit le mot « vaincre », c'est un mot, bien sûr, qu'on trouve dans l'Apocalypse. Quelle que soit l'Église, quelle que soit l'époque de l'Église, que ce soit Laodicée ou Philadelphie, ou n'importe quelle époque, vous avez mentionné le fait qu'il faut vaincre. C'est une condition sine qua non pour pouvoir être dans le royaume. Et on ne peut pas vaincre si on ne résiste pas à Satan. Sine qua non, sans laquelle cela ne pourrait pas être. Il faut absolument vaincre, il faut donc déjà résister à Satan. Il faut résister à quoi ? Il ne faut pas être découragé, il ne faut pas que le découragement nous guette, nous envahit au point que Satan l'exploite et qu'on n'arrive pas à résister. Les échecs, nous avons aussi des échecs dans la vie d'un chrétien. Et il ne faut pas rester avec ces échecs. Il y a des pièges. Il faut résister aux séductions de Satan. Il y a des obstacles. Il faut surmonter ces obstacles. Donc, très important pour pouvoir, comme c'est marqué ici dans le verset 13, pour pouvoir tenir ferme. Et puis, c'est répété dans le verset 14. Ça fait donc trois fois que la Bible dit qu'il faut tenir ferme. C'est donc très important quand la Bible parle de quelque chose trois fois. Tenez donc ferme. Ayez vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme. Il y a en français, dans la Bible, dans votre Bible en français, dans le verset 14, après tenez donc ferme, c'est point en virgule, c'est deux points. C'est deux points. Il y a un lien entre le fait de tenir ferme et le fait d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Pour pouvoir tenir la ferme, la première chose qui est mentionnée, c'est d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Parce que la Bible commence maintenant à nous détailler comment il faut tenir ferme, comment il faut résister à Satan. La vérité pour ceinture. Et vous me direz, oui, mais une ceinture, ce n'est pas l'armure. Comment est-ce qu'on peut être protégé par une ceinture? Et il faut peut-être regarder un petit peu le soldat romain à l'époque, si vous, il y a des images, je n'ai pas apporté avec moi une image d'un soldat romain. Mais Paul, bien sûr, était très familier avec les soldats romains à l'époque. Et la ceinture, c'était une partie centrale de son armure. C'était essentiel. On aurait pu imaginer que c'était un accessoire. Non, ce n'était pas un accessoire. Je vais vous montrer ça. Deuxième chose qu'on pourra marquer, c'est que c'est mentionné en premier. C'est la première chose qui est mentionnée quand la Bible parle d'une armure d'un chrétien pour faire face à Satan. La ceinture, vous pouvez regarder ça avec Internet si vous voulez. Il y avait des lanières suspendues. Il y avait la ceinture, bien sûr, qui englobait le soldat, sa taille. Et il y avait des lanières suspendues. Ça protégeait peut-être plus ou moins. Mais la ceinture avait un rapport avec la cuirasse ou le plastron. Donc cette partie de l'armure qui était évidente, qui protégeait les organes vitaux. Et ça repartait, la répartition du poids sur les hanches, parce que ça pouvait être un peu lourd. Et donc quand c'était attaché à la ceinture, d'abord ça arrimait la cuirasse, ça l'arrimait, et ça repartait une partie du poids sur les hanches, puisque c'était quelque chose assez lourd. La ceinture n'était pas quelque chose optionnel, c'était pas un accessoire, c'était essentiel. Pas uniquement ça, où est-ce que vous allez mettre votre épée si vous n'avez pas de ceinture? Vous avez besoin d'un fourreau. Il faut un fourreau pour l'épée, parce que vous n'allez pas forcément utiliser l'épée tout le temps. Et puis il y a autre chose qui est intéressant, c'est dans Luc chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, verset 35. Donc c'est déjà, premièrement, ça prenait une partie du poids, la cuirasse. Deuxièmement, ça vous permettait en tant que soldat d'avoir votre fourreau dans lequel vous mettez votre épée, surtout si vous avez un lance en plus. Et troisièmement, et là je me réfère à Luc chapitre 12, verset 35, où on lit ceci, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Nous, hommes, on a, tout au moins dans nos sociétés, nous avons l'habitude de porter des pantalons. On a besoin d'une ceinture aussi, mais pas pour la même raison. Et je crois que c'est en Inde, ils portent quelque chose qui est plus large. Mais ils avaient des robes à l'époque, ils n'avaient pas des pantalons. Et pour pouvoir courir, et pour pouvoir, un soldat, pour qu'il puisse se battre, il fallait, justement, pour employer l'expression biblique ici, que vos reins soient sains. Il fallait donc prendre cette robe, la partie plus basse de la robe, il fallait l'enfiler dans la ceinture. Et là, vous étiez libre. Vous étiez libre de courir, vous étiez libre de vous battre, et vous étiez vraiment à l'aise. Et c'est donc la troisième raison pour laquelle on avait une ceinture. On pouvait, on parle en français de retrousser les manches, mais retrousser les manches, c'est aussi une connotation de travailler. Mais si c'est uniquement en question d'être à l'aise, retrousser les manches, c'était un peu la même chose. Un peu la même chose, retrousser les manches. Pour qu'on puisse passer à l'action. Entre parenthèses, c'est intéressant parce que la ceinture était quelque chose de prestige à l'époque. Et ces lanières qui partaient à partir de la ceinture pouvaient avoir de métal, pouvaient être décorées. Et c'était une punition pour le soldat romain à l'époque de ne pas pouvoir porter sa ceinture qu'il porte à la main. C'était vraiment une grande punition. Il était tout le temps avec sa ceinture. Tout le temps, tout le temps. Alors la vérité, pourquoi la vérité pour ceinture? Parce qu'il faut que nous soyons imprégnés, il faut que la vérité imprègne nos vies. Que la vérité oui, soit fasse vraiment partie de notre vie, c'est indispensable de vivre de la vérité pour que nous soyons dans le royaume. Et même si vous joignez par rapport à la justice, on va voir ça tout à l'heure, il faut que la vérité soit présente dans notre vie. Il faut vivre donc une vie de vérité. Et avec la paix, bien sûr, pour réfuter les attaques de Satan. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous voulons devenir de plus en plus saints, c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. Et c'est marqué ici, sanctifie-les, le fait de devenir donc plus saints, sanctifiés. Sanctifie-les, comment? Par ta vérité, de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est la vérité. Quand nous recherchons la vérité, nous allons nous imprégner de la vérité, ça va nous entourer comme une ceinture pour pouvoir vivre. Et c'est pour ça que l'étude de la parole de Dieu, c'est tellement important, parce qu'on regarde la parole de Dieu, on étudie la parole de Dieu, et nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés, nous sommes réconfortés. C'est une armure, cette parole de Dieu, cette vérité. Une armure contre le découragement. Parce que le découragement, c'est quelque chose que Satan va vite fait d'exploiter. Et nous allons pouvoir rester fermes. Quand nous sommes convaincus de la vérité, ça nous permet d'agir. C'est stimulant et ça nous permet d'agir, d'aller de l'avant. Bon, nous avons appris la vérité dans la Bible, nous avons appris les 10 commandements, nous avons appris le sabbat, etc., la parole de Dieu. Mais autre chose, c'est qu'il nous faut parler et agir selon la vérité. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je reviendrai sur le verset 23 et le verset 24 tout à l'heure. Mais on va commencer avec le verset 25. C'est pourquoi, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Parlez des chrétiens ici. Hein. Parce que c'est facile de dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact pour se protéger, parce qu'on n'a pas le courage. Mais on entre dans un domaine dangereux parce que c'est ce que Satan a fait. Satan est le père des mensonges. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de Éphésiens chapitre 4. Voilà, au moins j'ai mon auditoire. Éphésiens chapitre 4 et le verset 25. Je n'ai pas fait exprès. Éphésiens chapitre 5, verset 25. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Éphésiens 4. Décidément. Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est important pour nous de dire la vérité les uns aux autres. Il y a bien sûr une question de confiance, mais il y a même plus que ça, puisque c'est la voix de Dieu. Et Dieu est un Dieu de vérité. Donc, quand nous parlons, quand nous agissons, d'agir, de parler selon la vérité. Alors, on peut se poser la question, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que cela nous protège? Parce qu'en connaissant la vérité, en s'imprégnant de la vérité, nous n'allons pas être séduits. Satan aime séduire. Si nous savons ce que la Bible dit, ce qui est juste, ce qui est vrai, Satan ne va pas pouvoir nous séduire. Il y a différentes situations. L'étude de la Bible devrait faire une différence à nos vies. Ça nous permet de ne pas être affaiblis. Et comme j'ai dit, si nous entrons dans le domaine du mensonge, on fait la même chose que Satan. Mais revenons au verset, si vous voulez bien, au verset 23. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et le verset 23. Il parle d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je saute au milieu d'un passage ici. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Notre but, c'est l'homme nouveau, c'est quelqu'un de différent, quelqu'un qui a changé et que nous continuons ce changement, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous voulons avoir une vie juste, nous voulons avoir une vie sainte. C'est donc dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Le Shuraki, la version Shuraki, qui est la version qui est assez directe, parfois crue, mais qui donne parfois davantage de sens. Shuraki dit ceci, dans la justice et la consécration à la vérité. Dans la justice et la consécration à la vérité, nous devons être consacrés à la vérité dans notre vie. Donc le premier point que j'ai voulu élaborer dans ce sermon, c'est d'avoir la ceinture comme protection. La ceinture, la vérité qui nous permet d'être avec la vérité et de résister aux séductions de Satan. Verset 14, je reviens au verset 14, Éphésiens chapitre 6, c'est le verset 14. Deuxième armure que j'ai choisie aujourd'hui dans ce sermon. Verset 14, « Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » La cuirasse, deuxième partie de notre armure, qui est indispensable, cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Dans Psaume 119, verset 172, Psaume 119, verset 172, nous lisons ceci, « Parce que tous tes commandements, Psaume 119, verset 172, parce que tous tes commandements ne sont que justice. » Et le Shuraki, encore une fois, dit ceci, « Oui, tous tes ordres sont justice. » Donc, pratiquer la vérité, vivre comme Dieu veut qu'on vit. Vivre de la vérité, c'est pratiquer la justice, pratiquer ses commandements. Et si la justice ne fait pas partie de notre vie, nous nous coupons de la protection de Dieu. Et nous devenons vulnérables aux attaques de Satan. Mais il est très important, quand on parle de se revêtir de la justice, de se rendre compte qu'il faut que ce soit la justice de Dieu. C'est l'armure de Dieu. Et si vous regardez Psaume 23, Psaume chapitre 23, à la lumière de la justice, c'est très intéressant de voir un certain nombre de mots qui reviennent. David, qui était pour la plus grande partie de sa vie très proche de Dieu, parle ici de sa relation avec Dieu, cette relation profonde qu'il avait. Dans Psaume 23, verset 1. Cantique de David, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et regardez comme sa vie est tournée vers Dieu. Et comme c'est Dieu qui intervient dans notre vie, sa vie, et c'est comme c'est Dieu qui lui procure toutes ces choses. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il faut que ce soit Dieu qui nous donne sa justice. Ce n'est pas notre justice qui, d'après la Bible, ne vaut rien. C'est donc Dieu qui doit donner sa justice, qui nous donne cette force pour être plus juste. De faire des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, de nous permettre d'effectuer des changements que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Verset 2, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, il restaure, c'est toujours Dieu qui le fait, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. C'est Dieu qui le permet de suivre les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Là encore, c'est toi, tu ointes d'huile ma tête, ma coupe déborde. Verset 6, le résultat. Verset 6, le résultat de tout ça. Oui, le bonheur, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu lui donnait cette force pour qu'il soit juste, pour que ce soit la justice de Dieu. Le résultat, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Évidemment, c'était son désir d'habiter dans la maison de Dieu. Et ça, c'était sa part. Sa part de vouloir, sa part de lutter, sa part de chercher Dieu. Et à ce moment-là, quand il cherchait Dieu, Dieu était là. Et Dieu intervenait, et Dieu l'aidait, et Dieu lui octroyait sa justice, la justice de Dieu. Il y a un passage dans ce contexte qui est intéressant, c'est Romains chapitre 12 et le verset 17. Romains chapitre 12 et le verset 17. Je vois que j'ai apporté la chaleur avec moi. Excusez-moi. Romains chapitre 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyons paix avec tous les hommes. Donc, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyons paix avec tous les hommes. De rechercher aussi la paix. Parce que le fruit de la justice, comme c'est marqué dans la Bible, le fruit de la justice est semé dans la paix. Ça va de pair avec la paix. Et ça englobe la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et de ne pas essayer d'imposer sa propre justice, mais de chercher la paix de Dieu. Et ça fait partie de la justice de Dieu, ça fait partie de la voie de Dieu. De quelle façon sommes-nous protégés, puisque c'est une armure, la justice, de quelle façon sommes-nous protégés si nous nous revêtons de cette armure? C'est marqué dans Proverbes, ce Proverbe 10, c'est répété dans Proverbe 11, que la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort, et c'est très très vrai quand il s'agit du domaine spirituel. La justice, si nous vivons la justice, si nous pratiquons la justice, ça délivre de la mort éternelle. Si nous avons en tête, comment est-ce que c'est une armure? Si nous avons en tête la justice, si nous avons des pensées qui sont bonnes, des pensées qui sont justes, si nous ne nous laissons pas influencer par ces pensées qui sont mauvaises, ça nous arrive tous, des pensées qui nous traversent la tête, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas valables, qui ne sont pas vraies. Mais le tout, c'est de résister et d'analyser. Et donc, si nous avons les pensées qui sont bonnes, les pensées qui sont justes, c'est une armure. Et ça nous délivre, ça nous protège justement de Satan. Prenons un exemple, la convoitise. Quelqu'un qui convoite quelque chose qu'il n'a pas. Ce n'est pas une bonne pensée, c'est une transgression de la loi de Dieu, et c'est une faille dans la cuirasse. Et vous imaginez bien que si nous avons la convoitise dans notre vie, dans un domaine quelconque, Satan va exploiter cette arme, cette faille dans notre armure. Satan va nous séduire et Satan va utiliser pour agrandir cette faille. Si on ne s'en rend pas compte, si on ne fait pas attention, si on ne revient pas en arrière. Ça, c'est donc la deuxième chose, la justice de Dieu. L'armure, une partie de l'armure de Dieu, c'est la justice. Justice que Dieu nous donne. Troisième, et à premier abord, c'est moins évident. Troisième chose que j'ai choisie aujourd'hui, c'est dans le verset 17, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 et le verset 17. Éphésiens chapitre 6 et le verset 17. Prenez aussi, bon, je passe pas dessus la foi, parce que la foi c'est presque tout un sermon. J'ai choisi ici pour la troisième chose, le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. C'est quelque chose qu'il faut prendre. Mais qu'est-ce que le salut a à voir avec une armure? Les casques peuvent prévenir de la mort. Il y a un exemple, même en Afghanistan, bon, c'était un casque qui était spécialement conçu pour, je crois que c'était un soldat d'élite, mais le cas particulier en Afghanistan, ça protégeait carrément de la balle, d'une balle. Ça ne va pas forcément toujours être le cas avec des casques des soldats, mais ici, cette fois-ci, c'était un casque plus renforcé, et ça l'a protégé carrément. La balle, il n'a rien eu. Pour les Romains, les soldats romains, le casque était en fer ou en bronze. Quelque chose de solide, quelque chose qui empêchait d'être tué. Si souvent, il y avait aussi, si vous regardez par exemple sur Internet, vous verrez que les casques romains avaient une partie derrière, une espèce de partie comme ça, qui protéger justement d'un coup d'épée qui pouvait tomber comme ça derrière le casque, proprement dit. Il peut y avoir aussi quelque chose au-dessus des yeux qui est protégé de la même façon. Donc, ils étaient protégés, bien protégés. Mais qu'est-ce que, encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Nous comprenons la signification de base du mot « salut », qui veut dire sauver ou délivrer de quelque chose. Sauver ou délivrer de quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, c'est généralement, ça se réfère généralement à une délivrance de la pénalité de la mort, la pénalité de la mort éternelle du péché. Bon, vous connaissez les références, Romains chapitre 6, verset, le verset 23. Donc, c'est une délivrance de la pénalité de la mort que la justice de Dieu exige. La justice de Dieu exige une pénalité, et c'est une délivrance grâce au sang du Christ, donc de cette pénalité de la mort. C'est la miséricorde de Dieu parce que nous avons un sauveur et c'est un don gratuit, bien sûr, de Dieu. Si vous regardez attentivement la Bible, vous verrez, on va peut-être regarder ça, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. C'est le cas où vous vous rappelez que Paul était en prison. Il y avait le geôlier qui allait se suicider parce qu'il y avait un tremblement de terre, parce que les hommes étaient plus liés, ils pouvaient s'échapper. Actes chapitre 16. Le verset 29. Actes chapitre 16 et le verset 29. Et alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Parce que Paul s'est fait connaître, enfin il a dit qu'il était là. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si vous lisez uniquement ce passage, on pourrait arriver à la conclusion qu'il suffit de croire et qu'on est sauvé une fois pour de bon. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il est servi, donc il le baptise, il est servi à manger, il se réjouit devant toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. De ce qu'il avait cru en Dieu. Et comme je dis, si vous lisez uniquement ce verset, on pourrait imaginer que le salut, c'est uniquement le fait de croire en Dieu. Mais il y a d'autres versets dans la Bible. Il y a d'autres versets dans la Bible. Vous avez par exemple Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18, où il est question d'obtenir le salut, et vous avez bien sûr Philippiens chapitre 2 et le verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez. Donc, ce n'est pas encore acquis. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et puis vous ajoutez à ceci le fameux passage dans Matthieu 10, verset 22, où il est visiblement question du futur. Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, 22. Celui qui persévérera à la fin, jusqu'à la fin, sera sauvé. Il faut persévérer pour être sauvé. Mais c'est une voie qu'on prend, la voie du salut, c'est une voie qu'on prend. Bien sûr, au moment de son baptême, il faut continuer jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Donc le salut, il faut commencer le processus du salut, mais il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Et on commence à comprendre là un peu plus pourquoi le casque est un casque de salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 8. Il faut que nous puissions avoir nos yeux résolument fixés vers l'avenir. Nous avons l'occasion, chaque sabbat, d'avoir nos yeux sur l'avenir. D'ici quelques semaines, nous aurons la fête des tabernacles, où les ministres vont fixer, vont parler de l'avenir, vont parler de ce millénium, vont parler de ce qui nous attend pour nous aider. Et ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, nous lisons ceci. « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque, il y a une précision qui est donnée, on a déjà vu qu'il y a un casque du salut, mais ici il y a un détail supplémentaire, mais ayant pour casque l'espérance du salut. Donc ça commence déjà à répondre à la question, pourquoi le salut? Parce que le salut est une espérance. Évidemment le salut est une espérance. C'est notre salut, c'est notre changement, c'est le royaume, c'est l'avenir pour un chrétien. Et nous avons besoin de vivre, nous avons absolument besoin de vivre avec cet espoir. Et c'est une armure. Nous avons besoin de mettre l'accent dans nos vies sur le sacrifice, l'immense sacrifice de Christ, tout ce qu'il a fait pour nous, et de mettre l'accent également sur le royaume. Parce que c'est aussi le but de notre salut. On ne va pas subir tout ce que nous subissons et la fin, on n'a pas arrivé à la fin non plus. Mais c'est comme un casque. C'est comme un casque, c'est une protection. C'est un contrepoids. C'est un contrepoids. Satan essaie de nous décourager. Il va essayer de nous détruire. Et les démons peut-être vont nous mettre des idées dans la tête. Oui, certainement, vont nous mettre des idées dans la tête. Et à nous de résister à Satan pour que Satan n'arrive pas. Satan va vouloir nous décourager que nous pensons que nous n'allons pas y arriver. Que c'est trop dur. Et on commence à avoir un peu de désespoir. Nous fréquentons le monde, mais nous n'avons pas les valeurs du monde. Nous n'avons pas les pensées du monde. Nos pensées doivent être différentes des pensées du monde. Et Satan peut nous influencer là aussi, avec des pensées qui sont des pensées du monde, qui ne sont pas bonnes. Nous sommes protégés par la casque du salut, l'espérance du salut, si nous résistons aux tentations de désobéir à Dieu. Et si nous n'avons pas un casque de salut, c'est essentiel, si nous n'avons pas un casque de salut, nous ne sommes pas protégés contre quoi? Nous ne sommes pas protégés contre les soucis du siècle, pour employer Matthieu chapitre 13 et les autres passages parallèles. Nous ne sommes pas protégés contre l'invasion des autres convoitises. Nous ne sommes pas protégés contre les plaisirs de la vie. Et nous pourrons être découragés et nous allons être submergés. Nous allons nous enfoncer et Satan aura là-dessous dans nos vies. Parce qu'avec le casque, l'espoir du salut, c'est un espoir. L'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit en français. L'espoir fait vivre et c'est essentiel. C'est un essentiel que nous, on vit avec l'espoir et même la certitude du royaume. Avec une casque, avec cet espoir, ça nous donne une confiance dans l'avenir. Ça nous donne une confiance dans l'avenir au-delà du présent. Et comme j'ai dit, au-delà de nos échecs. Nous avons parfois des échecs, mais au-delà de nos échecs. Au-delà de nos souffrances. Parce que c'est un aboutissement. C'est le royaume et c'est l'éternité. Comment est-ce que notre casque reste en place? Oui. Bon, l'armure, c'est le cuirasse, ça va, hein, c'est bien, la ceinture, ça va, c'est mis en place. Le casque, si ça subit un coup d'épée, il peut peut-être aller à droite, à gauche. Comment est-ce que le casque reste en place? Le salut vient de Dieu. Dieu est de notre côté. Si notre engagement, et là c'est notre part, si notre engagement est total, c'est impossible de perdre. Je dis bien, avec l'aide de Dieu, bien sûr, en marchant avec Dieu. Mais il faut que notre engagement soit total. Que nous résistons, qu'on tient le coup, qu'on avance et qu'on ne cède pas à Satan. Il faut pas que nous perdions de vue pourquoi nous nous battons, pourquoi nous souffrons et pourquoi c'est difficile, et même très difficile pour moi. Il ne faut pas se voiler la face. C'est difficile. Mais quand nous tenons ferme, nous résistons et on tient debout, on ne cède pas et nous allons pouvoir avancer vers le royaume. Paul était un bon soldat. De Timothée chapitre 4 et le verset 6. De Timothée chapitre 4 verset 6. Paul, qui avait beaucoup souffert dans sa vie, qui a connu des souffrances que certainement, enfin, non, que nous n'allons jamais connaître. Et de Timothée, chapitre 4, verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Il savait qu'il allait mourir, mais il avait gardé la foi, il avait gardé cet espoir. Verset 7, « J'ai combattu le bon combat, il a résisté à Satan. » J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son événement. Et Paul savait que la casque du salut qu'il portait si fidèlement, si soigneusement, allait être remplacé par une couronne. Mais jusque là, il allait avoir besoin de la protection de Dieu. La Bible nous dit, en Jean 4, 1, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Je pense que je vous ai parlé tout à l'heure de Galates. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est à nous d'analyser, c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de voir quand les démons nous livrent la guerre, nous livrent bataille, parce qu'ils vont le faire. Si nous marchons avec Dieu, ils vont le faire. Et c'est à nous de voir et de comprendre et d'avoir cette armure de Dieu et de tenir ferme pour entrer dans le royaume. Nous allons vaincre, nous allons pouvoir vaincre en tenant ferme, en prenant cette armure, toute cette armure, en se revêtant de notre armure et se revêtir soigneusement. Nous allons pouvoir faire face aux attaques de Satan et nous allons pouvoir surmonter.